Principe actif par principe actif. Ou actif par principe, c'est principe actif.
L'équipe, des bénévoles, tout à la fois techniciens et journalistes, tous ont en commun de faire une radio libre.
Principe actif.
Pick up this recliner. I ain't no lazy boy. I'm mad hype, cause Tupac got shot. I'm drinking a 40 with the Mossberg pot. Five slugs, federal. But my boy just told me that the sabers work better though. Through your vest, through your plate, chest better be still. Or your ass getting put to rest. I expect. Bonsoir, nous nous retrouvons pour notre émission mensuelle de, d'Amnesty International. Donc, je vais vous présenter un petit peu le programme. Ce soir, moi, c'est Ronan qui a la technique, il y a Mina et il y a Sabine.
Bonsoir.
Et ce soir, on a laissé Didier. Donc, Didier n'est pas présent. Bon, je sais qu'il est un petit peu bavard, mais on va essayer de le remplacer. Donc, ce soir, je vais vous présenter le programme. Donc, il y aura une première partie où Sabine va nous parler de la série. Moi, je vais entre deux, je vais essayer de glisser quelques bonnes nouvelles. Après, il y a une deuxième partie où Mina va nous parler de la campagne Dignité. Excusez-moi, 30 secondes. La campagne Unité, moi, je ferai un petit peu les actions urgentes. Plus un petit dossier sur le relogement en Afrique. Et dans la troisième partie, il y aura une rubrique culturelle faite par Nino et avec une action « Faites-le signer ». Donc, il y a un petit problème, Sabine ?
Je n'entends pas.
Entends-tu, Sabine ?
Voilà.
C'est à toi, Sabine. Sujet sur la série.
Bien, bonsoir. Alors, on va parler de la série. En ce moment, la campagne massive d'arrestation, de disparition en chaîne, torture, blackout sur l'information. En dépit de l'extrême brutalité de la répression menée par le régime syrien, la contestation s'étend dans le pays. Fragmentée, celle-ci. Je n'entends pas dans le...
T'entends pas ?
Non, je t'entends toi, mais je n'entends pas mon retour.
Oh.
C'est bon?
C'est normal. Ah, là, c'est normal. Est. Excusez-moi, son micro n'était voilà. Pas branché. Excusez-moi.
Bonsoir. Donc, on va parler de la Syrie où c'est un petit peu la catastrophe en ce moment. Une révolte spontanée. Lorsque le printemps arabe emporte la Tunisie de Ben Ali et l'Égypte d'Hosni Moubarak, la révolte couve dans la Syrie de Bachar al-Assad. Néanmoins, les appels à manifester lancés par les activistes de la diaspora sur les réseaux sociaux rencontrent peu d'écho dans la rue syrienne. La tension est palpable, des incidents se produisent. Une petite manifestation se déroule même au cœur du souk de Damas le 15 février. Mais la Syrie ne se soulève pas. Jusqu'à Dera, où l'insurrection éclate à la suite de sévices infligés des enfants de 15 ans pour avoir écrit des slogans sur les murs de la cité appelant à la chute du régime. Ce n'est pas la pauvreté qui a déclenché la révolte, mais la réaction des sécuritaires après l'arrestation de ces enfants qui ont été... ils se sont moqués de l'honneur des gens de Dera. Aux familles venues chercher leurs enfants, ils ont répondu « Oubliez-les, faites-en d'autres avec vos femmes, sinon on s'en chargera. » L'humiliation de trop, surtout pour cette population tribale. Si les revendications sociales sont présentes dans le mouvement de contestation, la révolte syrienne est hautement politique. Non ou pas, c'est à la liberté que nous voulons, ont répondu les manifestants au régime qui leur permettait des mesures sociales, qui leur promettait des mesures sociales. La dignité devient le slogan des révoltés, des marginalisés du système pour la plupart, qui expriment ainsi leur aspiration à une vie meilleure, à un travail, à un logement, au respect et le rejet d'un système clientéliste discriminatoire. Nous voulons être considérés comme des citoyens à part entière. La révolte de Latakié, deuxième ville à entrer dans la contestation. Les gangs mafieux qui sévissent dans les montagnes alaouites ou sur le littoral depuis des décennies avec la protection de la famille Assad exercent une terreur auprès de la population soumise à des raquettes permanentes. Par quartier, par région, les habitants s'entraident et s'organisent. Au fil des semaines, des structures de coordination dans le psychiatre se constituent spontanément pour faire face à la répression et démasquer les infiltrés, les indiques du régime. La révolte syrienne n'est pas une révolte des périphéries ou des provinces. De Deraa à Latiaké, c'est la Syrie rurale, la société des banlieues qui entre en dissidence. À Hama, en Corse, ce sont des ruraux qui viennent grossir les rangs des manifestations qui commencent dès la mi-mars. 3 mois plus tard, ils sont des centaines de milliers à y défier le pouvoir. Le mur de la peur n'est plus. Pourtant, en 1982, l'écrasement de la contestation islamiste avait coûté plus de 20 000 morts à la capitale de l'Oronte. Pardon, excusez-moi.
Ah bah ton micro, il fonctionne bien alors.
Donc, depuis, c'est la terreur. Depuis 4 décennies, la société syrienne est soumise à un quadrillage sécuritaire. Hier, sous la houlette d'Azad al-Assad, aujourd'hui sous celle de son fils Bachar, le régime peut s'appuyer sur un impressionnant appareil de sécurité civile et militaire qui vise à instaurer la peur et le silence. Les récits de torture que nous recevons sont effroyables. Nous pensons que le gouvernement syrien persécute systématiquement les citoyens, et ce, à grande échelle. Déclaré Neil Seymond, chercheur sur la Syrie au sein d'Amnesty International, le 30 août dernier, à l'occasion de la sortie d'un nouveau rapport. L'organisation dénombre alors au moins 88 personnes mortes en détention d'avril à mi-août 2011. Nous n'avons jamais vu pareille horreur, affirmé de son côté Human Rights Watch. Dès le 1er juin, lors de la publication d'un rapport sur les meurtres et actes de torture commis contre Deraa, les qualifiant de crimes contre l'humanité. Le soulèvement a commencé dans cette ville 2 mois auparavant. Les militants locaux recensent 418 personnes tuées dans le seul gouvernorat de Deraa et plus de 887 autres dans toute la Syrie. Des passages à tabac prolongés, tortures sur les grilles improvisées, exécutions, disparitions. Les récits recueillis auprès de 50 victimes et témoins des exactions sont glaçants, comme le laisse pressentir l'intitulé du rapport. Certains Syriens sont même trop effrayés pour raconter ce qu'ils ont vu à Deraa. Dans la Syrie des Assad, parler, témoigner, informer équivaut à une mise en danger immédiate pour soi, sinon pour ses proches. La répression en Syrie pourrait relever de crimes contre l'humanité et justifier la saisine de la Cour pénale internationale. Entre-temps, la spirale des victimes s'est emballée. 2 500 morts, 3 000 disparus, 13 000 détenus, selon le rapport onusien. La situation pourrait être bien plus dramatique, car il est souvent impossible de savoir qui est mort et qui est détenu, témoigne un activiste des droits de l'homme. Pour écraser le soulèvement, le régime baasiste a mobilisé tout le dispositif de coercition qu'il a constitué en 4 décennies d'autoritarisme. Non content d'utiliser la force létale contre les manifestants abattus par les forces de sécurité ou des francs-tireurs qui tirent pour tuer, le pouvoir s'appuie sur une stratégie de terreur bien éprouvée. La société qui se révolte est tenue en joue par l'armée régulière, les unités paramilitaires, la police, les forces de sécurité, des milices locales, mais aussi des organes annexes du Parti Baas, des responsables locaux bassistes et d'autres clients du système. Sur les 22 millions de Syriens, 1 million d'agents civils ou militaires et policiers seraient engagés dans des missions de quadrillage et de répression. Le dispositif sécuritaire est particulièrement redoutable dans les 2 grandes villes du pays, Damas, Centre et Alep, afin d'empêcher les manifestants de créer une mobilisation urbaine comparable à celle des révoltes tunisiennes et égyptiennes qui ont emporté les présidents Ben Ali et Moubarak. Le moindre regroupement de quelques personnes y est dispersé avec une violence inouïe. Au bout de quelques minutes, les mosquées devenues le lieu de rendez-vous des contestataires sont investies par des moukarbarat, services de renseignement, qui empêchent tout rassemblement à la sortie de la prière. Ailleurs, les religieux les plus courageux subissent des pressions violentes. À Deraa, l'imam de la mosquée Omari, fief de la contestation, a dû faire une fausse confession publique télévisée devant la menace d'exécution de son fils, après en avoir perdu un, tué par un sniper. Des manifestants sont relâchés pour raconter les tortures qu'ils ont subies, dans l'intention de dissuader leurs compagnons d'armes de renouer avec l'action politique. Même les activistes qui apportent depuis l'étranger un soutien au soulèvement exposent leurs familles restées en Syrie à des pressions. Dans les villes et quartiers gagnés par le soulèvement, tous les hommes de 15 à 20 ans sont appréhendés dans de véritables opérations de rafle, avec des fouilles systématiques, maison par maison. Ces missions de répression ont été dévolues à des unités d'élite. Le pouvoir s'appuie également sur l'armée régulière pour mater les villes soulevées. Tour à tour, Bachar el-Assad a envoyé des chars et des milliers de soldats à Deraz, Homs, Hama, Latakié, Deir ez-Zor, Abu Kamal. Ni les tanks ni les hélicoptères ne sont appropriés pour mettre fin à des manifestations de rue. Mais cette violence sans mesure vise à réveiller le traumatisme de l'écrasement du soulèvement de Hama en 1982. Selon des habitants de Latakié, des centaines de manifestants tués début avril auraient été entassés dans des conteneurs et jetés à la mer. La logique de la répression est la même, punir les dissidents et frapper pour l'exemple. Une par une, les villes et quartiers rebelles sont soumis au même sort que des rats, décrit le rapport de HRW. Encerclés, les habitants sont privés d'électricité, de téléphone, d'eau, d'accès à la nourriture et aux soins. Il y a une politique de privation d'accès aux soins, confirme un médecin étranger qui travaille clandestinement. Le corps médical a été délibérément pris pour cible. À Homs, mais aussi à Deir ez-Zor, où des pharmaciens et médecins ont été arrêtés. Les manifestants s'improvisent en boucliers humains pour empêcher l'entrée des sécuritaires dans les hôpitaux. L'acheminement des médicaments et de la nourriture est bloqué en prévision du siège. Et lors de l'assaut, les habitants qui se hasardent à sortir pour se ravitailler sont visés sans sommation. Dès le mois de juillet, les médecins s'inquiètent d'une pénurie de lait pour les enfants. Elle s'est étendue aux denrées de base et à l'ensemble de la population. Se livrant à une véritable guerre de position, le régime a fait étalage de sa puissance en occupant l'espace avec des campagnes d'affichage immenses et en organisant des massiras, des marches géantes censées montrer le soutien de la population au président Bachar al-Assad. Ceux qui ne répondent pas aux convocations sont menacés au mieux de perdre leur salaire. Des tirs ciblés de francs-tireurs, armements de population alaouites paupérisés, rumeurs d'attaques par les manifestants contre les quartiers habités par les minoritaires. Elle est surtout avertie des capacités du régime à mettre à exécution ces menaces. Prise d'otages, les habitants murés dans le silence, non seulement en raison de ce qu'ils ont vu, mais aussi de ce qu'ils redoutent de voir. Voilà la situation actuelle. En plus, les journalistes, évidemment, ne sont pas invités. Il y a beaucoup de jeunes qui ont pris part à la cause, hein, des 16-28 ans, qui envoient des messages, qui enregistrent des séquences de vie en direct et qui nous envoie des passages. Vous pourrez aller voir sur le site d'Amnesty, c'est quand même assez impressionnant et assez dramatique.
Mais c'est relayé, je crois, par Facebook ou par Internet. Il y a beaucoup de...
Et effectivement, on tire pour tuer. Hein. Donc, c'est des militaires qui se baladent dans les rues et qui tirent pour tuer. Ce qui est encore plus impressionnant aujourd'hui, c'est que il y a énormément de blessés et la peur est en train de gagner les hôpitaux. Les patients et le personnel soignant des hôpitaux sont pris pour cible. Le gouvernement syrien a transformé les hôpitaux en instruments de pression alors qu'il met tout en œuvre pour écraser l'opposition. Donc, les personnels hospitaliers sont soupçonnés de soigner des manifestants et autres personnes blessées dans le cadre des troubles. Ils ont eux-mêmes été confrontés aux arrestations et à la torture. Donc, ils arrivent dans les hôpitaux, débranchent les machines, continuent à persécuter, continuent à exécuter, embarquent les médecins. Enfin, c'est la terreur totale dans les hôpitaux. Amnesty International a invité les autorités syriennes à donner des instructions précises et claires à tous les hôpitaux qui doivent accueillir et soigner tous les blessés sans délai et accorder la priorité à l'intérêt des patients avant toute autre préoccupation. Les professionnels de la santé syriens se retrouvent dans une situation impossible, contraints de choisir entre soigner les blessés et préserver leur propre sécurité. Voilà, une situation quand même assez dramatique qui n'est pas prête de s'arranger malheureusement. On vous tiendra au courant au fur et à mesure. N'hésitez pas à aller voir sur le site d'Amnesty et de signer les pétitions.
D'accord. Bon, avant la première pause, peut-être une petite bonne nouvelle, non ? Ou peut-être quelqu'un d'autre a quelque chose à dire, non ?
Non, vas-y, Renaud.
Une petite bonne nouvelle.
Une petite bonne nouvelle. C'est juste pour dire que donc Kacho Jacqueline Nabagesero, je ne sais pas si tout le monde la connaît. Moi, je ne la connaissais pas. Elle est la lauréate du prix Martha Hennals pour les défenseurs des droits de l'homme 2011, qui est remis chaque année par 10 des principales organisations non gouvernementales mondiales de défense des droits humains, dont Amnesty International fait partie. Donc, elle est la fondatrice et la directrice exécutive de Freedom on Women Uganda, une organisation de défense des droits de LGBT. Ce prix récompense l'immense courage de Kacho Jacqueline Nabagesero face aux discriminations et violences que subissent les personnes LGBT en Ouganda. Donc, si vous voulez savoir plus, il y a un très bon dossier sur le site au niveau d'Amnesty.
Oui, donc, et de la chronique aussi.
Et de la, ah, je ne l'ai pas vu sur la chronique.
Je crois. Bon, regardez les deux, c'est intéressant.
Oui, regardez les deux, tout à fait. Mais bon, il faut dire que tout le monde a accès à Internet, je veux dire, au niveau du site, et tout le monde n'a pas accès à la chronique.
Non, mais on peut voir quelques petits trucs.
Tout à fait. Non, mais tu fais bien de le signaler.
Oui, et par contre, tu parles de ça, mais par contre, le journal des jeunes, l'AJ d'Amnesty, c'est en PDF. Ça veut dire que tu tapes sur Internet, sur
et
ta recherche.
Et tu peux ouvrir le dossier.
Et en fait, c'est en PDF.
Tout à fait, c'est en PDF. Et celui-là, on peut l'avoir alors que la chronique, je crois qu'on peut juste avoir le sommaire ou quelque chose comme ça.
Oui, quelques liens qui s'ouvrent.
Mais bon, il y a un très bon dossier au niveau du site. Donc, nous allons faire notre première pause musicale.
Que va-t-on écouter, Ronan ?
Bah, c'est toi qui vas nous le dire.
Femi Cutie, Do Your Best.
Ouais. D'habitude, on le dit après le titre, mais bon, qui te dit que j'ai mis ce CD ?
Ah, mais ça fait longtemps, excusez-moi.
Mais j'ai peut-être mis un autre CD, je vais peut-être t'avoir là-dessus.
Ah, peut-être.
Bon, allez, nous sommes partis pour la première pause.
And many don't try to change her, but things still remain the same. So, you see, my brothers, you can but only do your best.
Do your best.
Then you will have to leave the rest.
Leave the rest.
Ask your mama, she's a go tell you. If you ask your papa, himself go tell you. Now, serious problem.
chers auditeurs.
Bonsoir.
Bonsoir.
Ça, c'est une petite histoire parce que tout à l'heure, pendant le moment. Bonsoir. Voilà, maintenant c'est mon micro qui est coupé. Voilà.
Oh,
j'avais coupé le micro.
On
là, c'est moi qu'on
a pas
entendu
tout à l'heure. Donc
je suis vraiment désolé.
On vous
de
dit bonsoir.
C'est vrai que quand on le fait une fois par mois, on a des fois des petits ratés. Et là, c'est mon micro que j'ai coupé.
Ah bah, comme quoi il y a une justice partout.
Voilà.
Donc là, comme vous a dit tout à l'heure Renan en début d'émission, je vais vous parler de la campagne Dignité, Droits humains et Pauvreté. Et dans ce cadre-là, je vais vous parler des défenses des droits économiques, sociaux et culturels. Alors, aucune solution à la pauvreté n'aura d'impact à long terme si les droits humains ne sont pas placés au cœur de l'action. Les atteintes aux droits humains font naître et perdurer la pauvreté. C'est pourquoi aucune solution à la pauvreté n'aura d'impact à long terme si les droits humains ne sont pas placés au cœur de l'action. Au moins 963 millions de personnes se couchent chaque soir en ayant faim. 1 milliard de personnes vivent dans des bidonvilles. Une femme meurt toutes les minutes de complications d'une grossesse. 1,3 milliard de personnes n'ont pas accès aux soins médicaux les plus élémentaires. 2,5 milliards de personnes ne disposent pas d'installations sanitaires décentes, ce qui entraîne chaque jour la mort de 20 000 enfants. Vous me direz comment lutter contre tout ça, la pauvreté dans le monde. Vouloir éradiquer la pauvreté en comptant uniquement sur la croissance économique est une approche fragile et non fiable. Chacun a le droit de vivre dans la dignité, le droit à la nourriture, à l'eau, aux soins médicaux, à l'éducation et au logement. Protéger les droits de ceux qui vivent dans la pauvreté n'est pas une simple option. C'est un élément essentiel de toute véritable solution. La pauvreté met en jeu l'interaction de 4 éléments clés. Le manque d'argent, l'insécurité, l'exclusion et le sentiment de ne pouvoir se faire entendre par ceux qui détiennent le pouvoir. L'action d'Amnesty International dans le cadre de la lutte contre la pauvreté porte plus particulièrement sur 3 axes majeurs. L'obligation de rendre des comptes, c'est-à-dire les acteurs nationaux et internationaux doivent rendre des comptes lorsqu'ils sont responsables d'atteintes aux droits humains, qui génèrent ou aggravent la pauvreté. Aucun État ne doit bafouer le droit des personnes sous sa juridiction. Excusez-moi, mais le micro est un peu haut. Il faut que j'arrête de lire comme un marathon.
Sabine, est-ce que tu peux baisser, s'il te plaît, le micro de Mina?
Alors, en fait, je suis un peu en extension. Oh, merci, Sabine.
Ou alors, on peut peut-être trouver un coussin, non?
Oui, aussi. Après, pour la troisième partie, je reprends. Donc, dans l'obligation de rendre des comptes. Les obligations relatives aux droits humains doivent être respectées et concrétisées indépendamment des frontières. Les droits économiques, sociaux et culturels doivent être justiciables aux échelons national, régional et international. Nous avons un deuxième axe majeur, l'accès aux droits. Les législations, les politiques et les pratiques discriminatoires qui entravent l'accès aux services et aux voies de recours doivent être remises en cause et modifiées. Des mesures concrètes doivent être mises en œuvre pour éliminer les obstacles qui empêchent les personnes vivant dans la pauvreté d'accéder aux ressources, aux services et à la justice. Les processus nationaux et internationaux visant à éliminer la pauvreté et à promouvoir le développement, notamment les objectifs du millénaire pour le développement, doivent se fonder sur une analyse des causes tenant compte des droits humains et aboutir à des solutions respectant ces droits. Enfin, le troisième axe majeur, c'est faire entendre les personnes vivant dans la pauvreté. Sur le plan international, les principaux acteurs et processus de la lutte contre la pauvreté doivent produire des systèmes de consultation et de participation intégrant pleinement les personnes touchées. Les personnes vivant dans la pauvreté doivent être dotées des outils permettant leur participation effective. Et donc, pareil, il y a un lien... Sur le site d'Amnesty. Donc vous pourrez en savoir plus.
Il y a beaucoup d'enseignements d'abord au niveau du site pour les gens. On peut passer, pas dire des journées, mais on peut passer beaucoup de temps. Il y a beaucoup d'informations.
Donc voilà, la lutte continue.
Donc je suppose que c'est à moi.
Oui, Renan, ah oui, je ne t'ai pas passé la main. C'est
non,
à toi, Renan.
Non, mais c'est pas grave.
On peut peut-être faire une parenthèse, puisqu'il s'agit des droits des populations pauvres et des plus démunies. Il y a aussi une pétition, alors je vous invite à aller nombreux. C'est faites-le signer. Ça s'adresse à.
T'as pas suivi le fil conducteur, toi.
Bah non. Elle a mais pas c'est pas grave.
Non, c'est pas grave.
Elle a bien suivi le cours de l'émission.
Tout
par
à
contre,
fait.
Elle a bien rebondi.
Elle a bien...
Et là, tu pourrais l'applaudir même.
Attends, j'y vais.
Ah, c'est suite hey, à...
Bravo.
Voilà, et ça s'adresse à votre président, n'est-ce pas, Nicolas Sarkozy, pour le faire signer par rapport à... Étant donné qu'il y a le G20 le 3 et le 4 novembre, pour effectivement lancer un appel à Nicolas Sarkozy à l'occasion de la Journée mondiale du refus de la misère. Tout est parti de là. Et pour qu'il signe en sa qualité de président du G20 et qu'il donne l'exemple pour que toutes les victimes d'atteintes aux droits humains puissent accéder à des recours efficaces, et ce aussi bien en termes d'éducation, de logement, que de santé ou de travail. Voilà.
En plus, alors c'est une pétition originale.
Il me semble, oui, c'est une pétition assez originale.
Oh, c'est original,
puisque,
c'est
fait le signer. Et il me semble que ça faisait partie de ce qu'il avait, s'était engagé aussi à faire non, lors de sa campagne.
Quand je parle original, je dis par rapport à la méthode de signer.
Ah,
quoi.
Oui. Donc vous avez un stylo et puis voilà.
Voilà.
Mais en fait, il faut le faire signer lui. Voilà. Donc allez-y, nombreux, hein, parce que c'est important qu'il s'engage aussi.
Tout à fait. Donc, moi, je vais vous faire une petite action urgente parce que je crois qu'à la dernière mission, je ne sais plus si on avait fait une action urgente. Genre, on en faisait, je veux dire, tous les mois pendant un moment. Et c'est vrai que je crois que depuis un moment, on n'en faisait plus. Donc, une petite action urgente. Donc, c'est une action qui est simple. Donc, je vais vous la lire. Et si vous êtes intéressé, vous pouvez nous envoyer un mail au niveau de notre adresse qui est, si je ne me trompe pas, c'est vrai que Didier n'est pas là ce soir. Cette Amnesty... Ah, j'ai un trou de mémoire.
Amnesty@gmail.com ou .fr.
Ah là, je suis vraiment désolé.
Je suis allée hier pourtant. Mais...
Amnesty@gmail.com.
International Évreux, bon, bah, c'est pas grave. je ne suis pas sûr qu'il y ait international. Je crois qu'on l'a échangé. Je crois que c'est amnestyévreux@gmail.com.
Bon, et ben vous essayez les deux.
C'est Gmail, en tout cas.
Ah, oui. Mais c'est Gmail. Bon, alors, l'action urgente, ce soir, elle correspond, donc, c'est par rapport à une école palestinienne qui risque d'être démolie. Donc, je suis désolé, ça va être un petit peu de lecture, parce que c'est vrai que, bon, déjà, j'ai parlé sans lire, c'est pas évident, c'est un métier, mais bon, là, donc... Donc, une école primaire accueillant des enfants bédouins palestiniens dans la région de Jérusalem doit être détruite. Des colons israéliens ont en effet poussé l'armée à procéder à cette démolition qui pourra avoir lieu à tout moment. 70 élèves de la tribu arabe des Jaalin vont être privés d'école. Des démolitions d'habitations bédouines doivent également avoir lieu prochainement dans la région. La démolition de l'école des Jaalin s'inscrit dans une campagne plus large qui vise à déplacer de force les bédouins qui vivent à l'est de Jérusalem, près des colonies israéliennes de Maale Adumim, excusez-moi encore par prononciation, et de Kfar Adumim. Ces colonies, comme toutes celles installées dans les territoires palestiniens occupés, sont illégales au regard du droit international. L'école en question est fréquentée par les enfants de plusieurs populations bédouines de la région de Khan al-Ahmar, qui se trouve dans la zone C de la Cisjordanie, intégralement placée sous le contrôle civil et militaire d'Israël. Ces populations bédouines sont victimes d'un harcèlement persistant de la part des autorités militaires israéliennes et des colons. Le 1er août, un groupe d'Israéliens de Kfar Adumim a saisi la haute cour de justice en demandant que l'armée explique pourquoi elle n'avait pas encore démoli l'école. Leur requête fait mention d'un ordre de démolition émis en juin 2009 par les autorités militaires israéliennes au motif que l'école avait été construite sans permis. Dans la pratique, il est quasiment impossible pour les Palestiniens de la zone C de se voir délivrer des permis de construire par les autorités israéliennes. Certaines familles de Khan al-Ahmar sont déjà confrontées à la démolition de leurs habitations et de leurs bergeries. En juillet 2011, l'administration civile a confirmé les ordres de démolition définitifs qui concernaient 12 habitations et 4 abris pour animaux à cet endroit. La Haute Cour de justice doit encore statuer sur une requête demandant leur annulation. Khan al-Ahmar et 19 autres villages de la périphérie de Jérusalem sont visés par l'armée israélienne, qui souhaite déplacer de force leurs habitants. Le Bureau de la coordination des affaires humanitaires a confirmé que l'armée israélienne avait récemment approuvé des projets prévoyant de faire partir 2300 bédouins de la commune de Maale Adumim où ils vivent depuis 1948 sans même les consulter. Donc, ce qu'on vous demande, si vous êtes intéressé par cette action urgente, donc c'est tout simple, c'est comme toujours Amnesty, c'est très simple. On vous demande donc d'écrire une lettre dans laquelle donc on demande donc aux autorités israéliennes d'arrêter immédiatement les procédures qui doivent conduire à l'émolition de l'école déjà en ligne, car sa destruction constituerait une violation du droit à l'éducation. On exhorte à annuler tous les ordres de démolition concernant des habitations et des abris pour les animaux. Et on prie instamment de suspendre tous les projets visant à déplacer de force des bidouins qui vivent dans la zone C de Cisjordanie. Donc le travail pour vous est très simple. Donc vous nous envoyez donc l'adresse Amnesty donc internationalevreux@gmail.com ou amnestyevreux@gmail.com parce que j'ai un petit trou de mémoire.
Sinon je crois que sur Eurasso,
oui, il y a un lien.
On a.
Je suis vraiment désolé,
voilà,
mais
ça va être plus simple.
Ah, Didier va nous en vouloir, mais bon, je suis vraiment désolé.
Eurasso, vous tapez ça sur le moteur de recherche, ça va être plus simple.
Voilà, et en fin de compte, les gens souvent disent qu'ils n'ont pas beaucoup de temps, donc moi, la lettre est déjà rédigée, vous envoyez quelque chose, je peux vous envoyer la lettre qui est déjà rédigée, donc vous n'aurez plus que votre signature, et après, ça sera juste à l'envoyer par mail. Donc, c'est très simple, les lettres, elles sont déjà rédigées. Bon, quelqu'un a quelque chose d'autre à dire, ou je pars sur un petit peu... Non, parce
non,
que je vois
si
Sabine...
T'as quoi à dire?
Non,
Sabine. Mais Sabine, c'est ça que tu dis?
Oui, ben je voulais Sabine.
Tu veux parler de quoi?
Non, mais tu as mis la pétition sur le site.
Non, la pétition n'est pas sur le site. Les gens peuvent nous envoyer un mail et moi, je leur emmènerai la pétition et la lettre qui est déjà faite. Ils n'ont plus qu'à signer et l'envoyer par mail.
D'accord.
C'est pas sur le site. T'as okay. Pas suivi, Sabine, c'est pas
non,
bien.
Non.
Bon, sur ces mots, nous allons passer donc à notre deuxième pause musicale. Ne me demande pas le titre, je ne me rappelle plus.
Non, mais je le dis après, t'as dit.
Ah oui, normalement, c'est après qu'on annonce.
On annoncerait alors.
Parce qu'il y a trop de choses avec lesquelles je pourrais jamais être en osmose. Je voulais te dire merci Malik. Des textes trop faits bien qui je suis. Se mêler de la cité au studio. Mais ce qu'est la musulée, c'est ce que je vaux. J'ai rejoint le front de la rue. Non, moi je suis pas du crew des vendus. Quand ils m'appellent à leur bureau, j'y vais. Ils veulent un truc coco pour le succès. Ils proposent de collaborer. Choisis le camp des tranchées.
Il y a ceux qui disent oui et ceux qui disent non. Mais ceux qui disent oui ont déserté le fond. Il y a ceux qui disent oui et ceux qui disent non. Moi j'ai dit non. L'identité contre le succès. Je préfère chanter le cœur criblé. J'ai rejoint le maquis indivisible, incorruptible.
Souvent je pense à papa. Mon combat réussir pour l'envoyer là-bas. Je parlais de nos projets. Papa que j'aime disait Inch'Allah. Son retour au pays s'est bien fait en août. Mais son voyage s'est fait froid dans une soute. Rien ne me ramènera. Pas même le foutu contrat. Pendant que la course aux richesses nous distrait. Chacun de nous passe à côté du vrai. Mon frère fait comme Malcolm pour vivre mieux. Ouais, ne courbe les chines que devant Dieu.
Ceux qui disent non,
mais ceux qui disent oui, ouais. Ont déserté le fond. Il y a ceux qui disent oui, et ceux qui disent non. Moi j'ai dit non,
yeah. Moi j'ai dit non.
J'ai l'identité contre le succès. Je préfère chanter le cœur criblé. J'ai rejoint le maquis, ouais. Indivisible, incorruptible.
Sorti de rien avec du vide autour. Avec mes passos, Serval, Kamikaze, ils mourront pas comme Géronimo, Antibarbe, Télimas, comme Bayard, gaffe au fléau et au flot de photos, lacérant le néant, au-dessus de la panthère néant. Je sais quand vous voudrez que je la ferme, mais ma voix est trop voilée de chimère. La voix s'éclaircit quand surgit le chanteau dans la colère. Mon art baigne, saigne des mots, goût de pierre, daigne les dieux, ne pas me faire toucher terre avant la mise en bière. Sabre au clair, je prends position pour la rime dense. Et s'il y a aucune chance de s'en tirer, tant mieux. Pas de regret, pas de reflet brisé dans le miroir de l'âme libre. Je manie les verbes comme des armes de géhivre, du nectar. Que l'on trouve parfois dans les larmes. J'ai un contrat, prends ce morceau comme un addenda. Wallen, Shuriken, les tripes approuvent, ouais. Il nous fallait que ça. Si ça le fait, tant mieux. Si tu crois que la gloire peut me changer, ouais. Tu peux te brosser. Les miens savent comment je partirai.
ceux qui disent non.
Et ceux qui disent oui ont déserté le front. Il y a ceux qui disent oui et ceux qui disent non. Moi j'ai dit non. Pour l'identité contre le succès, je préfère chanter le cœur criblé. J'ai rejoint le maquis indivisible, incorruptible.
Dans ce Las Vegas, à nous-mêmes, les costumes spavanes, agrippés à leur base, qu'on se traîne, croyant aux sésames, mais le portail reste clos, sont devenus beaucoup qui se retrouvent au clou et qui s'enfument pour s'enfuir et finissent sur les genoux à bout.
Comme ça, bien, bien, ouais. Chante d'où je viens.
Je Ken Wallen,
fils, pour qu'ils comprennent qu'on n'est pas des pour rien. Un blanche, on a fait tout, bien, on s'aide en face, rêve de Cancun.
Nous sommes de retour.
Ça va bien, réveille-toi.
Oui, alors nous avons rencontré nos camarades de la CAT lors de la journée contre la peine de mort à Vernon, hein, et on leur a dit qu'on passerait un petit message pour eux, puisque ils ont un peu le même combat, hein, contre la peine de mort, mettre fin à la barbarie. Donc ils feront un appel pour un moratoire universel sur la peine de mort, que je vous invite à aller signer sur leur site. On peut agir jusqu'au 7 novembre. Donc, allez signer à www.acatfranceattaché.fr, rubrique Agir avec la CAT. Donc, si vous êtes contre la peine de mort, ne vous retenez pas, allez signer et soutenir la CAT par la même occasion. Voilà.
Donc, c'est un nouveau mois. Donc, je vais vous lire une lettre d'Alexis Sokolov qui a été adressée donc à Amnesty International. Donc, c'est une lettre que vous pouvez retrouver sur le site, mais je trouvais intéressante de la lire ce soir. Bon, excusez-moi encore parce que ça va être pas mal de lecture. Donc, dans une lettre à Amnesty International, Alexis Sokolov revient sur son engagement, le harcèlement enduré, la justice arbitraire, mais aussi le soutien qui l'ont permis de tenir. Alexei Sokolov est un défenseur russe des droits humains, fondateur et dirigeant de l'organisation Pravovaya Osnova à Ekaterinbourg, a été libéré sous condition en juillet 2011. Il a passé plus de 2 ans en prison sur des fausses accusations. De la difficulté de protéger les droits humains en Russie. Après m'être heurté à l'arbitraire dans mon pays et avoir essayé sans succès d'obtenir justice, j'ai décidé de m'occuper de la défense des droits humains et de contribuer à soutenir les intérêts légitimes de ceux qui sont privés de liberté. Car lorsqu'on vit dans des conditions de total isolement, il est très difficile et risqué de défendre ses droits. En 2005, nous avons fait enregistrer une organisation de défense des droits de ceux qui sont condamnés pour crimes, en déclarant ouvertement que dans les prisons et colonies de la région de Svelslok, on battait les prisonniers pour briser leur morale et réprimer leurs moindres tentatives pour défendre leurs droits et leur dignité. Il n'est pas rare que des prisonniers soient tout simplement tués. Nous avons voulu attirer l'attention sur ce problème en organisant des actions civiles. À partir de février 2009, nous avons commencé l'inspection des établissements de détention obligatoire dans la région de Svelslok. Nous l'avons fait de façon très approfondie, ce qui ne fut pas du tout apprécié par l'administration du service pénitentiaire fédéral de la région de Svelslok, par le ministère de la...
Reprends ton souffle.
Excusez-moi de rigoler parce que j'ai 2 filles devant moi qui sont en train de me faire des... Bon. Elles font une sorte de danse.
Reprenons.
Je reprends ma respiration.
Voilà.
Donc, par le ministère de l'Intérieur du district fédéral de l'Oural, ni par la police de la région de Svelslok. Nous faisons suite à chaque inspection un rapport détaillé aux autorités compétentes et communiqué aux médias. Usant de mes prérogatives, j'ai aidé de nombreux prisonniers et leurs familles de personnes en détention arrêtées ou condamnées. Les autorités appliquaient un excellent système. Si la personne incriminée ne reconnaissait pas son crime, elle était amenée à IK2, où des prisonniers condamnés travaillant pour l'administration de la colonie devaient arriver à leur soutirer des éléments voulus par les enquêteurs. N'importe qui pouvait être arrêté dans la rue, détenu et condamné à partir des seuls témoignages fournis par les prisonniers. Nous en avons beaucoup parlé, avons organisé des rassemblements tournants, tenu des réunions et envoyé divers suppliques aux autorités de l'État. Nous nous sommes rendus à Moscou pour nous réunir à l'extérieur du bureau du président et demander instamment que soit mis fin à cet engrenage qui aboutissait à des condamnations illégales, reposant uniquement sur les témoignages de prisonniers purgeant leur peine dans les colonies. Mais c'est moi qui me suis trouvé pris dans cet engrenage. Le 13 mai 2009, ils sont venus me chercher. Ils m'ont arraché des bras, ma petite fille de 2 ans, m'ont jeté à terre et traîné jusque dans une voiture. C'est le colonel Dudin du bureau exécutif d'investigation du MVD du district fédéral de l'Oural qui a dirigé brillamment l'opération de ma capture devant ma fillette de 2 ans et devant ma femme. Je n'ai pas opposé de résistance, demandant seulement à téléphoner un avocat droit légitime qui me fut refusé. J'ai été relâché en juillet 2009 pour être immédiatement arrêté et accusé d'un nouveau crime dont j'ai été par la suite acquitté. En mai 2010, j'ai été condamné à 5 ans de détention. Le chef d'accusation, puis le verdict reposant entièrement sur les témoignages contradictoires de prisonniers sous le coup d'une sentence. En appel, la peine a été réduite de 2 ans et j'ai été envoyé pour la purger dans la région de Krasnoïarsk, loin de mon foyer et de ma famille. Pendant ma détention, mes parents sont décédés et on ne m'a pas autorisé à me rendre à leur enterrement, me refusant le droit légitime d'accompagner mes parents à leur dernière demeure. Apparemment, tout ceci fait partie du système punitif infligé au peuple russe. Ma femme restait seule avec une petite fille à charge, ne pouvait trouver de travail, personne ne voulant l'employer. Elle n'avait pas d'aide financière, si ce n'est celle qui fut apportée par diverses organisations de défense des droits humains et par des gens de bien qui ont fait des collectes pour que ma famille puisse acheter de la nourriture, voyager pour venir me voir, engager des avocats. Je suis simplement terrifié à la pensée de ce qui aurait pu se produire sans le soutien de la société civile. On m'avait fait savoir que je serais condamné et envoyé encore plus loin, que tout le monde m'oublierait et ma femme me quitterait. Mais toutes ces choses dont on me menaçait ne sont pas arrivées. Ma femme a toujours été proche de moi. Le lieu où l'on aurait pu m'envoyer importe tant peu. Pendant tout le temps de ma détention, elle m'a soutenu et s'occupait de moi. Des paquets de lettres et des cartes postales de soutien provenant de Russie et d'Europe arrivaient à la colonie. À la colonie, quand le service d'éducation m'appelait, je revenais avec une montagne de lettres que je pouvais difficilement tenir entre les mains. Et à mon retour dans la section, mes co-détenus, en me voyant arriver avec toutes ces lettres, pensaient qu'elles étaient destinées à l'ensemble du groupe. Par la suite, ils se sont habitués à ce que j'en reçoive autant et parfois plus que recevait tout le groupe qui comptait 150 prisonniers. Quand vous recevez tous ces soutiens, alors tous les ennuis et malheurs disparaissent à l'arrière-plan. Et vous savez que ce sont là des difficultés temporaires, comme celles que chacun rencontre dans son existence. Les paquets de lettres et de cartes postales avec leurs témoignages de sympathie m'ont aidé à traverser cette difficile période de ma vie. Je suis très reconnaissant à tous ceux qui ont ainsi réagi au vu de ma situation et qui nous ont aidés, moi et ma famille, à sortir dans la dignité de cet état de fait qui dure encore. Actuellement, mon régime de détention vient de changer. Je continue cependant à purger ma peine. Je me suis fait beaucoup d'amis, j'ai rencontré beaucoup de gens partageant le même état d'esprit que moi. Ce n'est que grâce à l'appui du public et au soutien des défenseurs des droits humains que j'ai pu surmonter le découragement, la peur, l'incertitude devant l'avenir. Par un effet inverse, chaque lettre et chaque carte postale reçue qui exprimait la sympathie de tous ces braves gens du monde entier me redonnait de l'énergie, me persuadait que le mal doit être combattu, non pas à moitié, mais jusqu'au bout, jusqu'à la victoire. Dieu est de notre côté. Pour ce qui est de ma mise en liberté conditionnelle, tout ce que je puis dire, c'est qu'on ne voulait pas me relâcher, on me refusait le droit légitime à une liberté conditionnelle et une commutation de ma peine sous prétexte de violations insignifiantes de ma part, lire des livres dans un endroit inapproprié ou boire du thé là où ce n'est pas autorisé lors du décès de mon père. J'ai été relâché le 27 juillet 2011, le jour même où ils ont refusé la mise en liberté conditionnelle de Pyatlon Lebedev, sous quelques faux prétextes qui, à mon avis, répondaient aussi à des mobiles politiques. Nous continuons à travailler pour la défense des droits humains. Aujourd'hui, j'ai retrouvé ma femme Gulia. Nous continuons à travailler pour la défense des droits humains. Nous avons quelques projets relatifs à la défense des droits humains, tels que l'installation d'un bureau de conseil juridique destiné au public. Nous recherchons maintenant des organisations, des financements, des personnes qui nous aideraient à réaliser ces projets. Nous espérons y parvenir par nos intentions sont bonnes. Le soutien le plus fort que j'ai reçu était celui de mes amis de l'étranger, les membres d'Amnesty International. Je souhaite ajouter que le soutien le plus fort que j'ai reçu, donc je viens de le dire déjà, était celui de mes amis de l'étranger, des membres d'Amnesty International. Je n'oublierai jamais ce voyage imaginaire vers tous ces endroits fabuleux grâce aux cartes si colorées. Vous faites un travail plein de bonté et très important. Merci mes amis, je vais essayer de garder ces lettres et ces cartes pour les montrer à mes petits-enfants. Donc je trouvais ce témoignage très intéressant pour justement expliquer qu'en fin de compte, écrire des lettres, ça sert. Les lettres sont lues, comme il dit, voyager en lisant les lettres et tout, ça l'a beaucoup aidé. Donc je pense que c'est à toi Mino pour la petite revue de presse.
Presque. Parce qu'en fait, on a oublié de vous parler de la situation du droit au logement et des expulsions forcées en Afrique.
Tout à fait.
Dans la deuxième partie d'émission. Et donc, c'était quand même important de le faire. Donc, on a encore un peu de temps. On va se permettre de le lire.
On va dépasser.
Vas-y.
Non, on ne va pas dépasser.
Non, on ne dépassera pas. Il nous reste 10 minutes.
Eh bien, on y va.
Alors, à l'occasion de la 50e session ordinaire de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples qui se tiendra à Banjul du 24 octobre au 7 novembre 2007, Amnesty International dénonce le fait que chaque année, un peu partout en Afrique, des centaines de milliers de personnes sont expulsées de force de leur domicile par les pouvoirs publics. Donc après, vous avez un bout de texte. Parce qu'en fait, ce qu'on vous lit, c'est ce qu'on peut trouver sur le site. Et Amnesty International demande à la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples d'appeler tous ses États membres à mettre immédiatement un terme aux expulsions forcées et veiller à ce que les expulsions qui ont lieu respectent les normes internationales et régionales et interdire clairement les expulsions forcées en droit et dans la pratique. Voilà, j'ai fait un résumé.
Oui, mais toutes les informations, vous pouvez les trouver sur le site comme à 10 minutes.
Parce qu'en fait, dans le texte, ils disent que ces expulsions sont réalisées en dehors de toute procédure régulière, sans qu'il y ait eu consultation au préalable et qui sans solution non plus au relogement. Donc, tout est lié au relogement et au non-respect du droit au logement. Voilà. Donc, maintenant, nous allons pouvoir passer à la rubrique culturelle.
Et c'est encore toi, Mino, je crois que...
Oui, tous ensemble. Parce que, par exemple, on va commencer par annoncer que le 2 novembre, à Rouen, au cinéma Omnia, un film supporté par Amnesty International... va être diffusé, Plus jamais peur, de Mourane Benchek. C'est un portrait de la révolution tunisienne. Et à cette occasion, il y aura un débat qui suivra le film animé par Françoise Leys, coordinatrice Tunisie Amnesty International.
Donc le 2 novembre à 20h au cinéma
Omnia
de Rouen.
Et
jamais peur.
Je te laisse annoncer notre week-end annuel qui a changé de date.
Nous aurons l'exposition vente artisanale d'Amnesty International et nous ferons cette année la foire aux livres. Donc le dimanche 13 novembre de 10h à 19h, toujours à la Hall d'Expo, avenue Foch.
Il y a une nouveauté cette année, l'entrée est gratuite.
Alors l'entrée est gratuite puisqu'il y a une foire aux livres.
Il y a plein de nouveautés cette année.
Et ça, sera la... La dernière date.
On pourrait faire une émission entière sur les nouveautés de cette année.
Puisque nous n'aurons plus de date après l'année prochaine, ce sera le 22 septembre. Non, c'est pas ça. Eh bien, j'ai rien dit. Donc, en tout cas, cette année, c'est le 13 novembre.
Peut-être pas. On verra. Ne soyons pas impatients. On a encore 8 mois pour voir ça.
Donc, voilà. Toujours avec les exposants, les artisans et qui seront là pour leur vente annuelle. Donc, venez nombreux.
Et n'oubliez pas la cafétéria, vous pouvez venir boire un coup, Jean.
Tu t'ennuies à la cafétéria.
Bah, généralement, c'est moi qui tiens le bar derrière la cafétéria. Et dans cette pièce, il fait très froid et je suis un peu bavard. Donc, si les gens peuvent venir discuter, il n'y a aucun souci.
Mais je crois que cette année, on tire au sort, en fait. C'est cafétéria ou stand. Je ne sais plus. Peut-être qu'il va tirer stand.
C'est tous les quarts d'heure.
Mais si je vais dans le stand, je serai gagnant. Ouais, mais il fera meilleur.
Dans la suite de la rubrique culturelle, je vais vous parler de deux livres qu'Amnesty va sortir. Donc le premier, Les enfants du monde racontent Amnesty International. C'est un album à hauteur d'enfant qui expose les principaux combats menés par Amnesty International depuis sa création et propose des pistes concrètes pour agir, un indispensable. Ce livre présente aux jeunes collégiens le travail essentiel que mène Amnesty International dans la défense des droits humains à travers 14 courtes fictions basées sur des faits réels, comme celle de Marie-Adélaïde, 12 ans, haïtienne, reste avec, placée comme domestique dans une famille. Les portraits de ces enfants sont le reflet des luttes menées sur tous les continents par Amnesty International pour les enfants soldats, les réfugiés, les personnes discriminées. Ils sont accompagnés de repères pour comprendre leur situation ainsi que des conseils concrets aux jeunes générations désireuses d'agir. Ce livre est écrit par Anne-Marie Tomaso et illustré par Alice Gravier. Donc vous pouvez le trouver aux éditions La Martinière, il sort le 27 octobre, ou le commander sur notre e-boutique. Voilà. Alors, dans le cadre toujours des livres d'Amnesty et des 50 ans d'Amnesty, Amnesty International a 50 ans. C'est un beau livre pour saisir l'histoire d'Amnesty International à travers celles et ceux qui l'ont vécu et qui font aujourd'hui la richesse d'un mouvement devenu mondial. Deux journalistes font traverser au lecteur 50 ans de combat pour les droits humains et interrogent la modernité d'Amnesty International, mouvement démocratique qui n'a cessé de s'adapter aux nouveaux enjeux et défis d'un demi-siècle marqué par des bouleversements majeurs. Un texte fort qui dialogue avec les archives racontant Amnesty International depuis sa création et les regards croisés de grands témoins tels que Robert Badinter ou encore Hubert Védrine, Ronnie Broman, qui apportent un regard critique sur l'évolution d'Amnesty International. Des extraits d'œuvres littéraires d'auteurs éclectiques tels que Jean Genet, Don Dédilo, Mario Vargas Llosa, Annie Ernaux, Fatou Diomé, Volé Soyinka, Duong Tuong.
Ah, je suis content, il n'y a pas que moi qui ai les mots compliqués.
Ou encore Laurent Mauvillier. Arrête !
Non, d'habitude, c'est moi qui ai les mots compliqués.
Oui, mais là, c'est des noms de famille, c'est normal. Puis c'est international, c'est pour ça.
Ah, bon, c'était russe tout à l'heure, c'est pas international, russe.
Si, mais il n'y a que russe. Viennent en résonance avec l'élite d'Amnesty International. Une plongée dans une histoire profondément humaine, dense, complexe, avec ses doutes, ses convictions, rappelant que les droits humains sont un engagement quotidien et l'affaire de tous. Ce livre est largement illustré par une iconographie mêlant portraits, affiches, images d'actualité. Il est coécrit par Aurine Crémieux, journaliste et documentariste, et Philippe Lefay, journaliste et producteur des Mots de minuit sur France 2. Pareil, sorti le 27 octobre. Voilà. J'ai presque fini, mais je vais vous laisser la parole par rapport à un deuxième film. On en parle ?
Oui, je l'ai dit, oui, oui, bien sûr.
Donc, allez-y, le film de Luc Besson.
Vas-y, Sabine.
Fin novembre.
Alors, je l'ai dit, qui devrait sortir repartir entre le 20 et le 30, enfin, à partir du 20 novembre, je pense. Il y aura, il sera diffusé à Évreux. Et normalement, Luc Besson devrait venir.
Il sort, je crois, c'est le 30 novembre. Et seulement, ce serait l'avant-première qui sera entre le 20 et le 30.
Entre le 20 et 30. Donc, suivez les dates au niveau du cinéma Le Gaumont. Et il y aura certainement une avant-première avec le soutien d'Amnesty International.
N'hésitez pas à regarder Eurasso.
Surtout Eurasso.
Parce que d'ici là, on aura mis l'info pour la soirée avant-première.
Alors, le 13, l'expo-vente.
Et la question piège de tous les mois, la date de la prochaine émission ?
C'est fin novembre, donc le 29. Et voilà. Oui, on s'est préparé.
Alors là, je suis coiffé sur le poteau. Là.
Et oui.
J'avais sorti le calendrier, je pensais les avoir.
Non.
Et faites pression sur votre président hein, pour qu'il aille signer. Faites-le signer. Monsieur Sarkozy, ne pas signer peut faire couler beaucoup d'encre. Voilà.
Donc sur ces mots-là, nous vous souhaitons une bonne soirée. On vous dit donc au mois prochain.
Au mois prochain,
donc
bonne
le mardi
soirée à tous.
29 novembre, de 19h à 20h. Et donc nous passons donc, juste après nous, il va y avoir l'émission du laboratoire. Allez, bonne soirée à tous.
Et on vous attend à l'expo-vente le 13 novembre.
Et venez, venez boire un coup, je serai derrière le bar.
Derrière le stand. Au revoir.
Au revoir.